Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Zinzinex. Aujourd'hui, c'est le 23e numéro de notre émission Mare Nostrum avec Fabrice, qui assure toujours la technique, et votre serviteur Raymond, qui assure la préparation et la présentation. Le thème que nous allons aborder est une réflexion peu commune, puisque nous allons parler de la pilosité et de ce qu'elle peut révéler de société humaine, méditerranéenne, mais pas seulement, on va aussi un peu au-delà de ce périmètre que nous explorons au fil des émissions. Nous allons donc parler de tricologie.
Oui.
Voilà, c'est ça. C'est donc la tricologie, c'est la science d'étude des poils.
Mais oui, trix. Trix, en voilà. Grec.
Alors donc, vous venez d'entendre notre invité, c'est Christian Bromberger. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous connaissez bien sûr notre émission, puisque vous avez déjà participé à une de ces émissions. Et nous vous remercions d'être venu d'ailleurs, puisque cette nouvelle invitation nous fait très plaisir. Vous êtes professeur émérite d'ethnologie à l'IDEMEC, donc c'est l'Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, dont vous êtes par ailleurs, bien sûr, le fondateur. L'IDEMEC, c'est donc un laboratoire de la MMSH, la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, à Aix-Marseille Université, dont nous sommes partenaires. Le partenariat étant en cours de signature, il est signé, voilà. Christian Bromberger, vous êtes aussi membre de l'Institut universitaire de France et vous avez eu et vous avez encore de nombreuses fonctions administratives et scientifiques dans des institutions universitaires, des musées, diverses revues scientifiques en France, à l'étranger également. Et vous avez dirigé pendant quelques années, et d'ailleurs je pense que vous serez à nouveau invité pour ça, vous avez dirigé l'Institut français de recherche en Iran.
Oui.
Voilà. Donc je pense que vous ne couperez pas à une autre invitation pour parler de l'Iran. Vos travaux donc sont assez larges, c'est un spectre finalement assez large, en portée sur les sociétés méditerranéennes, mais pas que, sur le football, sur l'Iran bien sûr, et sur la pilosité, puis bien d'autres sujets. Donc vous aimez un petit peu aller dans toutes les directions, à piocher des sujets de recherche nombreux et variés.
Mais oui, la vie est courte et il y a tellement de sujets passionnants.
Donc aujourd'hui, c'est la tricologie, donc ce qu'on peut appeler l'anthropologie de la pilosité. Donc c'est un sujet intéressant, puisque on n'a pas l'habitude d'en parler, de ça, hein, dans ces termes-là. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'est que la pilosité, par rapport aux autres éléments du corps, a des particularités. Je pense que c'est pour ça que vous y êtes intéressé. Donc, qu'est-ce que c'est qui fait la particularité des cheveux, des poils, etc., etc.
Mais écoutez, la particularité, c'est que, contrairement aux autres organes, la pilosité est quelque chose sur quoi on peut agir sans risque. Parce qu'on peut se couper les cheveux, on peut les peigner, on peut les teindre. Ça n'est jamais définitif. Tandis que si vous vous coupez un autre organe, alors je pense aussi bien à l'excision que si vous vous coupez un doigt, ben c'est définitif. Tandis que là, il y a les possibilités de revenir en arrière et donc il y a cette possibilité de faire dire beaucoup de choses aux cheveux ou aux poils corporels selon les intentions que l'on nourrit. Et puis alors, par ailleurs, en même temps, ces poils ne servent plus à grand-chose. Si vous voulez, les préhistoriens nous enseignent que la perte des poils remonte à Homo ergaster, c'est-à-dire à 1 900 000 années, puisque Homo n'avait pas besoin de tant de protection calorifique pour se déplacer. Il courait beaucoup déjà, donc, et il a remplacé au fil du temps cette protection par des vêtements, par des abris, etc. Donc, à vrai dire, ça ne sert plus à grand-chose. Et puis, d'autre part, on voit bien comment, au contraire, on a de la sueur qui nous permet de réguler la température du corps quand il fait trop chaud. Bref, ces poils sont plutôt gênants qu'autre chose. Et donc, on peut en disposer un peu sans grand risque Et pensez par exemple aux sourcils. Ben, il y avait des actrices qui s'épilaient complètement les sourcils. A priori, les sourcils, ça sert à empêcher que la sueur qui tombe du front ne vienne dans les yeux. Mais en définitive, c'est un risque assez mineur. Et on voit bien que des Marlène Dietrich ou autres se sont complètement épilés les sourcils sans qu'il y ait de risque particulier. Vous voyez aussi pour les vibrisses du nez. Bon, ça empêche les poussières de venir dans le nez. Mais en définitive, on peut s'en débarrasser sans trop de risque. Bref. On a l'impression que le poil est précisément un des rares éléments avec les ongles sur lequel on peut agir avec la certitude que ça va repousser et donc qu'il n'y a pas de risque majeur. Alors je sais que bien sûr il y aurait pas mal de dermatologues qui me diraient mais non, faut pas dire ça. Mais en fait, bon, ben, si je le dis parce que je vois aussi comment des gens qui ont une calvitie naissante vont se raser les autres poils du crâne pour avoir un crâne complètement dégarni. Bon, certes, il vaudra mieux mettre une casquette, un chapeau quand il y a un soleil très fort, mais enfin, c'est pas pour ça qu'ils vont être eux-mêmes sujets à de graves ennuis, comme si on leur arrachait un membre ou bien s'ils se coupaient tel ou tel membre. Non, là, véritablement, il y a une possibilité d'agir sans porter atteinte à sa nature et en se disant qu'on pourra toujours rattraper ça par la suite. Ce qu'on voit très bien d'ailleurs quand on voit comment il y a des conduites pileuses différentes selon les âges.
Oui, oui, oui. Et donc c'est intéressant parce que finalement ces cheveux, ces poils peuvent suivre à peu près les caprices de chacun ou les changements d'opinion ou voilà. Donc ça peut se plier aux humeurs quasiment.
Ben oui, si vous voulez, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on peut exprimer des tas de choses, soit sa conformité à l'ordre social, soit sa révolte, soit sa volonté de séduire ou sa volonté au contraire de repousser toute altérité. Bref, il y a tout ça qui peut être dit à travers le poil. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est comment ce qui est un élément ténu, une frange, peut être amené à dire autant de choses. Et moi, ce qui m'a intéressé, ce sont les significations de cette pilosité selon les sociétés, selon les âges de la vie, selon son rapport à la société, selon ses convictions, selon sa religion.
Oui, c'est ça qui est quand même qui est extraordinaire, de pouvoir donc varier avec un élément aussi ténu. Finalement.
Aussi ténu. Hein, d'ailleurs, on le voit bien quand il s'agit, on parle d'un poil.
Oui, c'est ça. Oui. Un poil, c'est une petite chose.
Une petite chose.
Je vous propose une première petite interruption musicale avec une chanson qui s'appelle Le Poil, d'ailleurs, comme ça, ça tombe bien, par un groupe qui s'appelle Electrochoc. La particularité, c'est que cette chanson, les paroles sont de Jean-Roger Cossimon.
Le Poil, chanson réaliste, musique. Chanson engagée. Ça s'est emmerdé. C'était un jour de beau temps. Dieu était de bonne humeur. Il avait créé la femme nue. Quelle grossière erreur. Voyant ses fruits fragiles à la merci des chacals, il eut une idée lumineuse. Le poil. Au départ sur terre c'était Byzance. Tout le monde m'a brossé dans mon sens. L'argent rentrait dans la touffe. J'ai donc coté mes poils en bourse. Puis j'ai connu Marie Chantal. Elle avait la bouche en cul de poil. On s'est quitté un poil de l'épouser. Le jour où elle a voulu décolorer toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rate, ça me barre, ça me pile. Je suis l'ennemi public, celui qu'on torture en rasoir bique. Toutes les bourgeoises qui s'épilent, ça me rase, ça me barre, ça me répile. Dans un monde aseptique, c'est, je suis politiquement incorrect. Un jour je suis passé de mode, quel supplice, j'ai eu des démêlés de justice. Je rasais les murs, j'étais clandestin, craqué dans les moindres recoins. Coin, coin.
Donc, c'est une chanson qui est intéressante, parce qu'elle est à la fois drôle
oui.
Et chargée de sens.
Chargée de sens, bah oui, tout ce qui touche au poil est chargé de sens.
Alors, Commençons peut-être par ça, ce qu'on disait juste avant l'interruption musicale, justement, le quart de poil, où on est à un poil de ça. C'est-à-dire que le poil est souvent, là, c'est souvent employé comme une métaphore du peu de choses.
Oui.
Voire du peu de choses qui a des conséquences. Je pense aux cheveux sur la langue, par exemple.
Oui.
Et c'est également un symbole pour le paraître. Hein? Donc, voyons un petit peu ce que sont ces poils quand on les voit, quand on les cache, quand on les rase ou quand on les laisse pousser, quand on les laisse très longs, quand on les fait friser. Et donc, les symboles et les métaphores de ces poils.
Ben, écoutez, la première métaphore, précisément, elle touche à la différence entre les sexes, ce qu'on appelle les genres aujourd'hui, la constitution culturelle et sociale des sexes. Alors, ce qui est frappant, par exemple, c'est de voir comment il y a traditionnellement une certaine ostentation masculine du poil, la barbe, le poil facial, qui nous différencie des femmes pour des raisons hormonales, et puis d'autre part également penser naguère au poil du torse qui était exhibé par les hommes pour montrer leur virilité, avec un collier parfois auquel pendait une lame de rasoir. C'était véritablement un symbole de la virilité ostentatoire qui s'affiche, par rapport donc le dru masculin par rapport au lys féminin. C'est un petit peu, si vous voulez, le modèle que l'on a eu à travers l'histoire des sociétés occidentales et méditerranéennes, cette opposition du dru masculin et du lys féminin. Regardez comment, par exemple, de jeunes garçons, la première chose qui les intéresse, c'est de regarder les quelques poils qui poussent pour leurs moustaches, pendant que les filles, au contraire, traquent les poils qu'elles peuvent avoir sur les jambes pour les faire disparaître et pour donc aller vers cet idéal du dru masculin et du lys féminin.
C'est très ancré, donc.
C'est très ancré. Alors évidemment, bon, aujourd'hui, on voit les choses un petit peu différentes, puisque même si la barbe, et ça on pourrait parler de la mode de la barbe aujourd'hui, parce que cette barbe qui était jadis le symbole de la vieillesse est aujourd'hui au contraire le symbole du start-upper qui a une barbe extrêmement bien entretenue et qui va dans son bureau pour lancer une initiative économique. Et donc il y a l'opposition entre ce lys féminin et ce dru masculin qui, même si aujourd'hui, c'est ce que je disais au début de ce développement, aujourd'hui, il y a véritablement une obsession du poil corporel qui doit être épilé sur le corps. Même s'il y a la barbe des start-upers, le corps, au contraire, doit être épilé, y compris chez les hommes, parce que nous sommes dans une période d'hygiénisme où véritablement, le poil, là où il y a du poil, en général, il y a des sécrétions, ça sent mauvais, etc. Et on est dans une époque, au contraire, de rejet du poil. Et donc, avec une période, il y a une anthropologue américaine qui appelle ça le depilatory age, l'âge dépilatoire, si vous voulez, où véritablement, donc, il s'agit d'avoir un corps lisse, et donc on voit grimper l'épilation masculine, alors que jusque-là, au contraire, le poil était le symbole visible de la masculinité. Donc, il y a en effet raser ou montrer... alors, il y a aussi, si vous voulez, les poils qu'on laisse, et qu'on laisse volontairement, qui peuvent être là le symbole de l'ordre ou du désordre, du refus de l'ordre, ou au contraire, si vous voulez, du désordre assumé, soit du révolutionnaire, des Barbudos de Fidel Castro, ou bien d'autres encore, qui manifestent leur opposition au régime. Alors, ça peut aller d'ailleurs, peut-être qu'on reprendra cela plus systématiquement, mais on le voit aussi dans le domaine de la religion, où on peut opposer à l'ordre du monastère avec ses clercs tonsurés, et d'autre part au visage glabre, à l'ermite, si vous voulez, avec sa chevelure qui part dans tous les sens, et avec sa barbe abondante. Il y a là aussi un contraste entre l'ordre et le désordre, un ordre qui va avec la construction, le monastère, et un désordre qui va avec la nature sauvage, et donc ces oppositions que l'on peut exprimer à travers la pilosité.
Et donc, quand on dit, donc, quand vous nous dites que c'est le symbole de la virilité, ce qu'on voit en tout cas dans nos sociétés, ce qui tendrait à dire qu'au contraire, quand cette chevelure ou cette barbe disparaît, c'est plus la virilité, c'est une forme de peut-être de castration, de manque de virilité, de féminité pour un homme.
Alors il y a un rapprochement qui est fort entre les sexes, entre les genres, qui s'est traduit notamment par une coupe courte des chevelures féminines à partir d'un certain âge, parce que le long demeure la norme pour les enfants ou les jeunes filles. Mais à partir d'un certain âge, c'est vrai qu'il y a une coupe féminine et quelque chose qui se rapproche un peu des coupes masculines, quelque chose que l'on avait connu d'ailleurs historiquement quand les femmes avaient pris des rôles d'hommes, c'était les garçons du lendemain de la Première Guerre mondiale. Rappelez-vous le livre de Victor Marguerite, on avait véritablement eu cette mode des garçons. Alors tout le monde, toutes les femmes n'assumaient pas les significations de la garçonne, mais c'était la mode, hein, jusqu'à ce que dans les années 30, on ait au contraire ce retour aux cheveux longs féminins, bouclés, et d'autre part aux cheveux donc, qui s'opposaient aux cheveux beaucoup plus courts masculins. Alors, évidemment, on peut se dire qu'il y a peut-être une tendance vers l'androgynie aujourd'hui, avec cette similitude de coiffure qui est... Mais néanmoins, la coiffure courte chez les femmes permet de mettre en valeur les boucles d'oreilles, par exemple. Et donc, il y a toujours, et puis d'autre part également, ce brushing, si vous voulez, qui singularise une femme dans la force de l'âge et en même temps avec une coiffure disciplinée. Parce que ce qui est le pire aujourd'hui, ce sont les frisottis pour les femmes. Donc, c'est vrai qu'à la fois, il y a un rapprochement, mais il y a néanmoins le maintien d'une certaine distance que manifeste par ailleurs le port de la barbe chez les hommes, puisque les femmes barbues, alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Ah oui, oui, on touchera quelques mots tout à l'heure des femmes barbues et velues. Vous nous direz un petit peu ce qui s'est passé là, dans les sociétés occidentales. Il y a aussi le rapport pureté-impureté, il y a aussi l'innocence, et puis ce qui est moins innocent sur la présence des poils. Donc, je vous propose d'écouter maintenant une façon de considérer justement ces poils et ces cheveux avec un rappeur, un jeune rappeur qui s'appelle D.I.Ace. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Je m'en réfère à mon technicien qui me regarde. D.I.Ace, voilà, merci. Donc, une chanson très courte, un rap très court qui s'appelle Le Coiffeur. C'est un jeune rappeur de la région parisienne.
Ok frérot, fais-moi une coupe carrée. Je t'en demande pas des masses, moi je veux juste un dégradé. Des contours parallèles, et faut vraiment pas te rater. Parce que c'est pas très halal, comment lui il m'avait gâté la dernière fois. J'assure je suis pas de mauvaise foi, mais bon, les contours qu'il m'a fait ils étaient ronds, dis donc. Et oublie pas l'arrêt, ça c'est la touche finale. C'est comme une panenka en coupe du monde à la Zidane. Non, j'suis sérieux, faut pas que tu me fasses de frayeur. Le fait est que tu n'as pas le droit à l'erreur. J'vois une femme, pas plus tard que dans deux heures, j'serais malheureux si ma coupe est une horreur. Merde, son boule a touché mon cœur, ma coupe doit toucher le sien. Si tu rates, j'vais gérer ta sœur. Et en plus, j'vais vendre ton chien. Non, blague à part, là faut vraiment me rendre mignon. De toute façon, si j'aime pas, gâte, t'auras pas ton pognon.
Ouais mon gars, c'est comment ?
Non mon gars, franchement tu m'as mis bien. Ça c'est de l'architecture, de l'art.
Voilà les cheveux comme arme de séduction.
Et oui. Mais oui, mais d'ailleurs c'est pour ça que les cheveux sont cachés, les cheveux féminins sont cachés dans beaucoup de sociétés. Et alors puisque nous sommes dans une émission sur le Mare Nostrum, il est bien évident que vous voyez à quoi je fais allusion.
Tout à fait.
Et c'est une vieille coutume méditerranéenne que de masquer ces symboles de séduction. Et donc d'ailleurs... on l'a aussi, on le voit, c'est pas simplement une coutume musulmane, c'est une vieille coutume méditerranéenne, que l'on trouve d'ailleurs aussi dans des sociétés plus septentrionales, hein, je pense à la Roumanie, par exemple, où la dissimulation de la coiffure féminine était quelque chose d'important, surtout à partir du moment où ces jeunes femmes étaient mariables, ce qui varie selon les sociétés, l'âge possible du mariage.
Eh bien, vous avez franchi le pas, parce que pour aborder les poils et les religions du livre en Méditerranée, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet aspect des choses. Et puis, on est dans le cœur de nos sujets, là. Et c'est quelque chose que vous avez développé.
Oui, il y a beaucoup de choses à dire, parce que, d'une part, on voit bien, vous savez, moi, mon idée de la Méditerranée, c'est que c'est un système de différence entre, avec comme base, les trois religions du livre qui se différencient les unes des autres, et avec ce que l'on croit être des révélations divines qui ne sont que des traditions pour s'opposer, pour manifester cette opposition entre les différentes traditions religieuses. Alors, ce qui est vrai quand on prend le statut des clercs, le statut pileux des clercs, c'est que dans le christianisme romain au moins, ce qui est frappant, c'est que les clercs devaient avoir la peau glabre, la peau du visage glabre. C'est, en dehors des moines franciscains, c'est ce à quoi on a assisté, et puis des missionnaires ensuite, pour des raisons pratiques, c'est ce qui a été la norme pendant toute l'histoire de la chrétienté, du catholicisme au moins. Et puis, alors, du côté de l'islam, au contraire, on voit comment les clercs, ou les porteurs de la parole divine et de la révélation, ont au contraire une barbe. Chez les juifs, on voit comment il y a les papillotes également, conformes à la tradition du Lévitique. Mais ça ne suffit pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à l'intérieur même de ces religions comment chaque courant s'est identifié à travers des rites pileux particuliers. Alors, il faut bien voir, bon, ça n'est pas le seul motif, mais qu'en 1054, quand il y a rupture entre Rome et Byzance au sujet de la religion, eh bien, une des raisons avancées, c'est précisément la pilosité. La pilosité des clercs qui, à Rome, sont imberbes, alors qu'à Byzance, on voit qu'ils sont au contraire barbus, avec une chevelure amplement développée qui était condamnée par le christianisme romain. Alors, si on prend l'islam, ce qui est très frappant aussi, c'est le statut de la moustache. La moustache, par exemple, d'après la fitra, c'est-à-dire d'après la saine et la bonne nature, ne doit pas dépasser la lèvre. Parce que, à ce moment-là, risque d'entrer dans la bouche par le biais de la moustache, des mets impurs et toute une série d'excrétions venant du nez ou d'ailleurs et qui peuvent être nuisibles à la saine et bonne nature. Alors, que font les Alehar, qui sont une minorité religieuse importante, les gens de la vérité, et qui sont stigmatisés, par exemple, dans l'ouest de l'Iran et dans les zones irakiennes où ils se trouvent, comme des Ali Allahi, c'est-à-dire des individus qui confondent, des croyants qui croient que Ali est Allah, ce qui, ah oui, évidemment, est quelque chose de blasphématoire pour les musulmans traditionnels et orthodoxes. Et donc, eux, ils se sont laissés pousser, au contraire, la moustache qui déborde sur la lèvre. Et alors, donc, on a là, si vous voulez, un système d'opposition aussi à l'intérieur de l'islam. Et donc, on voit comment... alors, il y a aussi cette opposition qui est forte entre l'ordre du monastère, d'un clergé cénobitique, et puis d'autre part, des ermites, aussi bien en islam qu'en chrétienté, où on a à l'ordre du monastère, avec ses tonsures, avec ses visages glabres, au contraire l'ermite avec sa barbe et avec sa chevelure hirsute, ce que l'on trouve aussi d'ailleurs en islam, où il y a un certain nombre d'ordres hétérodoxes qui se laissent pousser les cheveux de façon tout à fait contraire à la norme, ou bien encore qui ont des barbes hirsutes et non pas des barbes bien modelées, comme c'est le cas pour les clercs. Et donc, ce qui est intéressant, d'ailleurs amusant, dans le monde chrétien, c'est de voir comment les frères convers étaient un peu quelque chose d'intermédiaire entre l'ordre du monastère et le désordre de la forêt, parce qu'ils avaient, eux, des barbes, donc, et pourtant ils vivaient dans le monastère, ils avaient des barbes, mais des barbes extrêmement bien entretenues, contrairement à la barbe des ermites, et contrairement à l'aspect glabre des moines. Donc, une sorte de transition entre l'un et l'autre, et c'est vrai qu'eux-mêmes s'occupaient des champs à ce moment-là, et on comparait leur barbe bien entretenue à la façon dont ils confectionnaient les meules, et qui étaient également donc bien façonnées.
Ah oui, oui, d'accord. C'était c'était finalement un signe de leur travail dans les champs et de la conformité à la meilleure façon de travailler dans
voilà,
les champs.
Voilà.
Donc les religions du livre finalement ont fait des poils un marqueur.
Alors. Les religions du livre et d'autres religions aussi, avec... Bon, là, nous sommes à Mare Nostrum, donc je ne vais pas vous embêter avec l'Inde ou avec
non,
le monde
du bouddhisme.
Non, mais
on peut quand même digresser. J'ai prévenu nos auditeurs que c'était la Méditerranée, mais un petit peu aussi, c'est permis. Voilà.
Donc, parce qu'en Inde, on a aussi cette opposition, si vous voulez, entre ces moines itinérants, mais qui vont de monastère en monastère, et les moines jaïnes, par exemple, et qui ont une pilosité... très très limités, qui s'arrachent les cheveux et puis qui ont le visage glabre. Et puis d'autre part, ces ermites de la forêt qui ne respectent pas les lois brahmaniques et qui ont un contact direct avec le sacré et qui ont là alors ces mèches torsadées, si vous voulez, que l'on connaît et qui forment véritablement le paysage très proche de la forêt que l'on peut assimiler, donc, et où on peut voir une métaphore de ces cheveux broussailleux qui sont caractéristiques de ces mystiques dans la forêt. Et si vous voulez, je crois que ça nous amène beaucoup plus loin encore, parce que Roger Caillois distinguait en définitive trois ordres. Il disait, il y a le profane, et puis il y a le sacré droit et le sacré gauche. Le sacré droit, c'est un sacré d'institution, d'ordre, de soumission, d'obéissance. Et puis le sacré gauche, c'est le sacré de contact direct avec le divin, qui ne s'encombre pas des règles monastiques, etc. Et en définitive, tout ça a une traduction pileuse. Avec, d'une part, le sacré droit et ses règles extrêmement, si vous voulez, précises concernant la pilosité, et puis au contraire, le sacré gauche, avec cette transe qui s'accommode d'une chevelure hirsute et de poils faciaux épars.
Donc, ce qui est quand même curieux, c'est que l'érémitisme dans les religions apparaît toujours sous la forme, justement, de cet hirsutisme des poils.
Oui,
c'est curieux qu'on retrouve ça dans les religions. Ça signifie quoi ? Ça signifie une proximité de la nature, de l'état sauvage.
Il y a à la fois, si vous voulez, ce côté proximité de la nature, dans la mesure où il y a des contraintes pratiques. Évidemment, il n'y a pas la salle de rasure à proximité comme dans les monastères. Mais il y a aussi, je crois, le fait de ce contact direct avec la divinité qui ne s'encombre pas de médiation culturelle, mais qui va directement à la divinité sans passer par l'ordre du monastère, le bâti du monastère, ces rites particuliers de soumission à un ordre.
Oui, donc c'est plutôt la proximité, en fait, hein, la proximité de la divinité qui justifie pour les ermites, en même temps que la commodité, il faut dire les choses.
Oui, en même temps que la commodité, c'est vrai, mais vous voyez, par exemple, dans le bouddhisme, vous voyez ces moines bouddhistes qui sont complètement rasés, etc. Et puis, au contraire, on a dans le tantrisme des formes très différentes avec ces individus qui disent, bah écoutez, oui, mais même moi, je vais avoir un contact direct avec le divin, ou enfin, dans le bouddhisme, c'est plus compliqué que ça.
Oui, c'est plus compliqué.
Mais je vais avoir une vie mystique particulière qui séduit d'ailleurs beaucoup les Occidentaux à la recherche d'expériences particulières, mais sans passer par cet ordre monastique extrêmement lourd, et donc une certaine forme de liberté contre laquelle les religions du livre ont lutté. parce que véritablement l'érémitisme, aussi bien dans le christianisme qu'en islam, c'est quelque chose qui n'est pas bien vu. Tous ces gens qui recherchent un contact direct sans passer par la médiation de supérieurs, de bâtiments, etc., c'est quelque chose, si vous voulez, qui est mal vu dans les religions du livre.
Et oui, c'est ça, parce qu'en fait, ces gens-là échappent.
Échappent
à l'institution.
Échappent à l'institution.
Et c'est ça qui les rend, qui les rend un peu...
Suspects,
exactement. On va écouter une chanson que vous connaissez certainement, d'une chanteuse qui s'appelle Tohama, qui a eu un petit succès dans les années 50, c'est une chanteuse belge. Qui a eu quelques succès, et elle a en particulier chanté une chanson avec en rapport total avec notre sujet, qui s'appelle « Achille, pourquoi t'as de la moustache ?»
Achille, pourquoi t'as de la moustache ? Dis-le-moi, ça me fera plaisir. Achille, vois-tu, il faut que je sache à quoi ça peut bien servir. Je voudrais que tu m'expliques si c'est vrai que ça pique dans les moments pathétiques. Tiens-moi au courant, dis-moi si vraiment ça chatouille en embrassant. Lorsque maman m'a dit je t'ai trouvé un beau parti et qu'elle te présenta sans discuter, j'ai dit ça va, tu as l'air de m'aimer et moi je t'adore de mon côté. Mais avant de t'épouser, j'ai une question à te poser. Achille, pourquoi t'as de la moustache ? Dis-le-moi, ça me fera plaisir. Achille, vois-tu, il faut que je sache à quoi ça peut bien servir. Je voudrais que tu m'expliques si c'est vrai que ça pique dans les moments pathétiques. Tiens-moi au courant, dis-moi si vraiment ça chatouille en embrassant. Je sais évidemment que les belles dames de 1900 tenaient infiniment à la charmeuse de leur galant. Une paire de belles vacances, ça les rendait toutes frémissantes. Mais toi, pour m'enjoler, t'as pas besoin de les faire pousser.
Ah, une chanson coquine de Tohama, qui avait chanté deux autres chansons qui ont eu beaucoup de succès. Je vous dis pour nos auditeurs, je te le. Voilà, que bien sûr, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dit la chanson. Et toi, ma petite folie, qui était aussi un très très grand succès de Tohama. Alors, on parlait à l'instant de ces ermites qui ne sont, du fait de leur pilosité, pas tout à fait conformes à ce qu'on attend d'eux dans leur hiérarchie et dans leur structure religieuse. On va parler peut-être un petit peu de la conformité pileuse, parce que je crois que au-delà de la mode, même si la mode est un élément important, la façon de tailler, de laisser pousser, de frisoter le système pileux est en quelque sorte une façon de se conformer à la religion ou à autre chose ou à la société. Donc c'est peut-être aussi le signe d'un statut, d'une option politique et autres.
Oui, ce qui est frappant, c'est de voir dans toutes les sociétés à quel point, selon les âges de la vie, par exemple, il y a des modèles pileux qui s'imposent. Alors, la société qui m'avait le plus frappé, vous m'excuserez une fois de plus, c'est en dehors de Mare Nostrum, c'était la société des Borana, qui se trouve, c'est une société, un groupe Oromo qui se trouve au sud de l'Éthiopie et au nord du Kenya. Et là, il y a 8 classes générationnelles. Je passe sur le détail, c'est une société à la structure très complexe. Mais ce qui est frappant, c'est que chacune de ces 8 classes d'âge, pas d'âge d'ailleurs, de génération, eh bien, se singularise par un statut pileux particulier. Alors, les jeunes enfants, on leur laisse, qui sont dans la première classe, on leur laisse les cheveux en sauvagés, et donc, avec, on met des cories au bout de leurs cheveux, etc. Après, on va les tonsurer, comme des moines franciscains. Et puis après, quand ils seront grands et qu'ils pourront devenir guerriers, on laissera pousser une touffe sur le dessus de leurs cheveux, du crâne, pour manifester leur virilité. Puis après, ils pourront accéder comme ça à des responsabilités politiques aussi. Et puis, l'âge aidant et venant, eh bien, à la place de la touffe, on remplacera cette touffe par un symbole un peu similaire, qui est fait en métal. Et donc, après, quand ils seront très âgés, à ce moment-là, ils seront complètement dégarnis. Et donc, sans symbole pileux qui manifesterait leur appartenance à une classe générationnelle antérieure. Donc, il y a véritablement une codification que l'on voit chez nous aussi. On voit bien quand même comment se différencie un adolescent d'un homme d'âge mûr ou quelqu'un d'un statut social élevé qui soigne sa coiffure ou une femme qui prend le TGV le matin et qui est une executive woman avec son catogan extrêmement lisse et puis d'autre part des femmes qui au contraire manifestent plus de réserve par rapport aux classifications sociales et qui n'ont pas le même soin de leur coiffure. Donc, il y a là, évidemment, un langage, et un langage qui est aussi un langage politique, dans la mesure où la manifestation de... Vous voyez, il y avait une enquête récente sur la barbe. Et alors, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette enquête, c'est de voir qu'il y avait 66% des électeurs de François Fillon aux récentes élections présidentielles qui étaient glabres, sans barbe.
D'accord.
Et donc, au contraire, les électeurs de Macron, de Hamon, etc., portaient là, les chiffres n'étaient pas tellement significatifs. Ils avaient des barbes entretenues, si vous voulez, ce qu'on appelle des barbes de 3 jours. En général, d'ailleurs, c'est des barbes qui ont un peu plus de 3 jours. Mais c'est un peu celle que vous avez. Et donc, il y a toujours... Alors, évidemment, il y a des cas beaucoup plus spectaculaires. Hein. Je pense au Barbados de Fidel Castro, oui. Ou encore, moi, ce que j'avais étudié en Iran, où véritablement, il y avait eu dans le nord de l'Iran une révolution paysanne au début du XXe siècle. Et là, tout le monde avait prêté serment sur la barbe de continuer le combat jusqu'à la fin. Et c'était laisser pousser la barbe, alors une barbe donc qui n'avait rien à voir avec la barbe très modelée et très entretenue des mollahs. Mais vous voyez aussi comment, par exemple, les talibans, quand ils pénètrent dans Kaboul en 1996, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils prennent la barbe des hommes rencontrés dans la rue pour voir si elle peut bien tenir dans la main. Et si elle est trop courte, à ce moment-là, ils vont être réprimandés, voire fouettés, et puis aussi, s'ils n'ont pas de barbe adéquate, ils pourront être exclus de la radio qui est émise à ce moment-là, enfin, il y a des émissions à ce moment-là. Et donc, il y a véritablement ce rapport au poil. Alors, d'ailleurs, ça va très loin chez les talibans, puisque parfois, ils plongent la main dans les pantalons pour voir si... puisque la norme en islam, la norme, hein, je ne dis pas toujours la pratique, mais la norme, c'est de se raser les poils pubiens et pour voir si ces poils pubiens sont bien rasés. Donc, il y a là véritablement une codification, une normalisation du poil qui est quelque chose d'extrêmement fort. Et vous voyez, c'est un petit peu comme le vêtement. On voit comment un vêtement à chaque époque, à chaque régime correspond à un type de vêtement. Regardez le statut de la perruque pendant la Révolution française et comment ce qui était le symbole du XVIIIe siècle a été supprimé par un règlement de 1792 prohibant la perruque. Et il faudra attendre un peu ensuite le XIXe siècle, la Restauration, pour voir réapparaître, mais de façon très... très peu développé la perruque, et puis au contraire comment aussi ça traduit tout ça une atmosphère historique. Le XVIIIe siècle, qui est un siècle de rapprochement des sexes, est un siècle où les hommes sont glabres, portent des perruques mais sont glabres, et puis au contraire on a le retour du poil facial au XIXe siècle avec cette restauration qui marque bien la restauration des limites entre les genres. Et
oui, donc ouais. c'est bien. On a bien là donc un marqueur qui peut être surveillé de près.
qui peut être surveillé de près. Et alors, c'est quelque chose bon, dont on se rend compte quand on écoute les conversations à la table familiale chez nous, où les parents vont protester contre la longueur des cheveux de leurs enfants, etc. Mais aussi où il y a véritablement une codification. Bon, pensez au roi mérovingien également, pensez à tous ces épisodes de l'histoire, pensez à l'Égypte ancienne, avec cette codification du poil et cette hiérarchisation qu'il y avait, avec les perruques pour les pharaons, les barbiches également, y compris à Tchepsout, quand c'est une femme. Et au contraire, si vous voulez, pour les fellahs, garder son poil et sa barbe naturelle, ou bien encore pour les scribes, avoir la tête rasée sans perruque. Là. Donc on a toujours une hiérarchisation qui apparaît à travers ces conduites pileuses différentes, différenciées. Et évidemment, les gens qui sautent cette limite, ces barrières, là, une répression, voire des sanctions qui sont prises contre les gens qui essaient de s'afficher avec une apparence pileuse qu'ils n'ont pas. Et alors là où c'est très frappant, et là encore on quitte Mare Nostrum, c'est de voir comment les modèles de telle ou telle classe ou de telle ou telle population dominante, comment ces modèles peuvent avoir prise sur des modèles traditionnels ou bien des modèles naturels, entre guillemets, qui sont plus forts. Je pense là, si vous voulez, à un phénomène qui a été tout à fait intéressant, ça a été la vague assimilationniste en Amérique, où vous avez eu donc cette volonté chez les Afro-Américains d'avoir les cheveux lisses, avec donc une Madame Walker qui fournissait tous les produits nécessaires pour avoir les cheveux lisses à travers ce défrisage à froid, à chaud qui permettait d'avoir les cheveux lisses. Tout ça a dominé jusqu'à ce qu'on ait des phénomènes véritablement de révolte, en disant mais pourquoi nous plierions-nous au modèle pileux de la société dominante et ne garderions-nous pas nos caractéristiques alors avec ces modèles qu'ont été par exemple Angela Davis et donc cette coiffure, si vous voulez, qui tranchait avec ces modèles de la coque assimilationniste qui avait dominé auparavant.
Oui, ces cheveux frisés qui faisaient, qui étaient également bannis par les sociétés coloniales, considéraient que c'était la marque de l'esclave et de la soumission des gens qui étaient soumis à la colonisation. Alors, on va écouter une petite, on va faire une petite pause musicale plus classique. Avec une pièce de Debussy qui est une pièce orchestrale qui s'appelle La fille aux cheveux de lin. Je rappelle qu'on est sur Radio Zinzinex, que vous écoutez donc Mare Nostrum avec notre invité, Christian Bromberger, et nous parlons donc de l'anthropologie de la pilosité. Alors après avoir évoqué la conformité pileuse, on va essayer d'évoquer avec vous, Christian Bromberger, la non-conformité pileuse avec une curiosité. Et il y en a quelques-unes d'intéressante. Alors, j'ai lu dans votre livre, d'ailleurs, que, dont je n'ai pas donné les éléments. Ce livre, il s'appelle, il a été publié en 2015, je crois, hein, c'est ça ?
C'est ça, oui.
En 2015. Il s'appelle « Les sens du poil », c'est une anthropologie de la pilosité, donc par Christian Bomberger, aux éditions Créafis. Et c'est un livre passionnant que vous ne pourrez pas quitter quand vous commencerez. Alors là, la non-conformité, et je disais que vous l'aviez oublié quelques fois, et ça m'a beaucoup intéressé, la femme velue.
Oui, la femme velue. Alors, c'est vrai que, bon, à ce moment-là, c'est l'opposé de la norme féminine, mais ça peut avoir aussi une autre signification. Je pense à toutes ces saintes barbues que l'on trouve aussi bien dans le sud de l'Europe que dans le nord de l'Europe sous le nom de Wilgefort ou bien donc de Vierge Forte ou bien d'Uncumber. D'Uncumber en Angleterre, alors ce serait Sainte Débarras. Débarrasse-moi. Alors débarrasse-moi de quoi ? C'est intéressant quand on voit ces saintes velues et barbues, surtout, les légendes qui en justifient l'existence. En général, c'était parce que leur père voulait les marier avec un païen. Et elles-mêmes étaient très attachées à leur religion chrétienne. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elles demandent ? Elles demandent surtout de ne pas épouser ce païen parce qu'elles veulent vivre soit vierge, soit se marier avec un bon chrétien et pas avec un païen. Et Dieu leur donne des poils pendant la nuit, ce qui fait que ensuite, évidemment, leur mari promis les récuse et elles échappent donc à ce mariage contre leur volonté. Et donc, on a cela. Alors, on a aussi évidemment des femmes à barbe qui ont été larisées ou bien qu'on considérait avec plus ou moins d'intérêt selon les siècles. Et ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis intéressé au sort d'Antonietta. Alors Antonietta, qu'est-ce que c'est ? C'est une jeune fille dont on a un tableau qui est aujourd'hui au musée de Blois. Et ce tableau nous montre cette jeune femme barbue, velue, rousse en plus. En plus, on reviendra ensuite sur le roux. Qui, au contraire, brandit une feuille où est indiqué... Alors, ce qui est intéressant dans ce tableau, sur cette feuille où est indiquée son origine, elle est originaire des Canaries, elle est venue avec son père, qui était lui-même aussi velu, mais enfin, pour un homme, c'est moins gênant. Elle est venue des Canaries et elle a été à Mantoue et puis ensuite à la cour d'Henri II. Et là, à vrai dire, elle n'a pas eu un sort fâcheux. D'ailleurs, le tableau la montre parée avec une chevelure qui n'est pas du tout conforme à l'ordre naturel, mais à un ordre très culturel et très culturalisé, avec des bijoux. Et donc, elle est très bien coiffée. Et à vrai dire, à travers l'exemple d'Antonietta, ce qu'on voit, c'est qu'au XVIe siècle, à ce siècle de la Renaissance, on était très intéressé par les nouveautés, par tout ce qui pouvait venir du Nouveau Monde, notamment. Eh bien, elle était appréciée dans cette cour. Et donc, il y a là quelque chose qui est un indice aussi de la manière dont on a conçu ces personnages velus. Montaigne nous dit que ces personnages, eh ben, ils font partie de l'œuvre infinie de Dieu et donc qu'il faut les prendre en considération. Mais ensuite, on voit comment ces femmes velues, poilues, etc., au contraire, ont été montrées dans des cirques, je pense au XIXe siècle, au début du XXe siècle, stigmatisées, moquées, et puis ensuite, comment on est passé plutôt à la compassion par rapport à ces femmes qui échappaient aux normes, et non pas, ça n'a plus ce statut de mirabilia que cela pouvait avoir au XVIe siècle, où on admirait ces formes qui n'était pas connu et qui échappait à la normale. Donc, on a là, si vous voulez, toute une... à travers l'image de la femme velue. Alors, et au Moyen-Âge, on voit comment ces personnages aussi étaient stigmatisés et au contraire conçus comme des créatures du diable. Et comment, à la Renaissance, on a eu un moment où tout à coup, on s'est mis à s'intéresser et à apprécier ces formes qui échappaient à l'ordinaire. Donc, c'est vrai que c'est aussi un excellent baromètre des sensibilités que de voir les réactions par rapport à ces gens qui, sur le plan de leur pilosité, échappent à l'ordinaire et à la norme.
Est-ce que, et j'ai vu que vous en parliez dans votre livre, est-ce que Podane a quelque chose à voir avec ça ?
Oui, 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 Podane a quelque chose à voir avec ça, bien évidemment, dans la mesure où, là, ça n'est pas, si vous voulez, l'aspect velu, mais c'est, si Podane m'était compté, ça serait une histoire, je ne me rappelle plus exactement ce que dit La Fontaine, mais enfin, bref, c'est vrai que là aussi, on voit, oui, ce rapport, si vous voulez, avec l'étrange. Et alors, il est évident que cette histoire de poil nous amène à nous interroger sur ce que l'on appelle l'étrange similarité, pour ne pas dire l'étrangeté, quelque chose d'étrange, si vous voulez, par rapport à nos normes. Et c'est vrai que le poil nous rappelle aussi notre condition naturelle. Et le fait que nous appartenons à une espèce particulière qui est homo, mais avec des traces qui se retrouvent dans d'autres espèces du monde animal. Et nous appartenons à ce monde animal, ce qui fait qu'il y a toujours cette crainte de revenir à un statut où nous serions entièrement velus. Alors je pense, d'ailleurs, c'est souvent la punition qui a été imposée à ceux qui avaient échappé à la règle. Là, je pense à Nabucodonosor, qui, pour son orgueil, est projeté dans la forêt et ressemble à un animal. Je pense aussi à ces légendes médiévales, où on voit ces pieux personnages qui, tout à coup, ont cédé à la tentation, qui se retrouvent pelus comme Orcel, velus comme des ours au fin fond de la forêt avant qu'ils ne soient repêchés, rachetés, après de nombreuses prières. Bref, il y a là, si vous voulez, tout ce rapport à la sauvagerie, qui est un rapport évidemment consubstantiel à nos cultures, puisque nous appartenons à ce monde animal et nous voulons surtout nous en différencier et bien montrer que nous avons... nous avons conquis, c'est vrai, une autonomie par rapport à ce monde animal, mais enfin, nous y appartenons quand même. Donc, il y a toujours ce risque d'y retomber.
Et ça va quelquefois assez loin quand, comme on l'a vu quelquefois, enfin maintenant on le voit moins, l'identification des propriétaires d'animaux domestiques à leurs animaux, dans les coiffures par exemple. On a vu beaucoup de photos et de dessins humoristiques sur ce thème.
Ben c'est vrai qu'entre le caniche que sortaient des dames de la bonne société... avec leurs boucles bien apprêtées, et puis d'autre part les permanentes, il y avait, si vous voulez, un rapprochement qui était fort. Je pense aussi, si vous voulez, alors à l'opposé, ces chiens, ces pitbulls, ces chiens, donc taureaux, qui exhibaient ces skinheads au poil rasé dans les années 1990, il y avait là aussi un rapprochement entre la coiffure des humains et puis, d'autre part, le poil animal.
Oui, c'est ça. C'est pour souligner la communauté avec son propre animal domestique.
Et puis, en même temps, c'est vrai le fait qu'il y a des périodes de style minimaliste, il y a des périodes, au contraire, de style baroque, avec des chevelures extrêmement sophistiquées, avec des perruques, pensez aux perruques du temps de Marie-Antoinette, etc., ouais. Extrêmement sophistiquées, et puis des traces d'âge baroque qui subsistent et qui font qu'on a aussi, sur le plan de l'architecture, quelque chose, des gonflements, des recherches extrêmement sophistiquées qui sont similaires à celles de la chevelure. Ce qui fait qu'on peut lire aussi à travers la chevelure l'esthétique d'une époque.
C'est dire l'importance de ce sujet.
Ben, la poil,
la pilosité, c'est...
Ben oui, le poil est un tout petit élément, mais qui nous dit beaucoup de choses.
Ben écoutez, je pense que ça va toucher bientôt à son terme. On a encore quelques minutes quand même. Ah. Un mot peut-être sur les rouquins.
Alors les rouquins, évidemment, si vous voulez, c'est la couleur qui a été récusée dans la mesure où on est blond ou brun, ça y a. Mais si vous regardez dans un annuaire, bon maintenant il n'y a plus d'annuaire, mais enfin même sur un annuaire sur Internet, vous verrez qu'il y a beaucoup de roux, de roux chaud, de roux sel, etc. Ce qui fait que ça attirait l'attention, véritablement. Il y a très peu de bruns et de blonds, hein, mais des roux rousseaux, alors là, en multitude. Alors qu'en fait, c'est une catégorie de 2% de la population, et c'est vrai que les sociétés en général n'aiment pas ce qui échappe à la norme, les hybrides, oui. etc. Et donc, il y a véritablement vis-à-vis des rousses, alors les rousses, ce sont des délurés qui sentent mauvais, etc. Les roux, ce sont des traîtres, c'est le renard, c'est Judas avec sa barbiche rousse, etc. Donc, les roux ont eu une
mauvaise presse.
Une mauvaise presse. Alors, et on voit comment aujourd'hui, bah, il y a au contraire un retour peut-être un petit peu des roux, mais plus sous la forme rouge dans les teintures féminines, dans la mesure où il est vrai que ces distinctions de couleurs qui existaient si fortement avec ces blondes, notamment, qui représentaient la pureté, avant que ce ne soit les actrices qui ont fini par représenter la bêtise, plutôt. Eh bien, donc, entre le blond et puis le brun, qui était aussi une couleur canonique, le roux, là, avait tous les éléments pour avoir une mauvaise réputation.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Christian Bromberger, pour cet entretien. Bien sûr, on pourrait encore en parler longtemps, écouter encore longtemps sur ce sujet qui sort vraiment de l'ordinaire. Et en tout cas, c'est avec plaisir que nous vous recevrons à nouveau. Je voudrais rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent donc nous écouter le jeudi à 12h30 et le samedi à 15h ou à 19h en alternance sur 88.1. Et également sur notre site Radio Zinzinex et radiozinzine.org. Sur Radio Zinzinex, vous pouvez donc, dans la rubrique Les émissions, Mare Nostrum, vous pouvez réécouter, voire enregistrer les émissions, toutes, depuis le début. Vous pouvez également y laisser des messages, des remarques, des questions auxquelles je répondrai. Je vous invite aussi à nous suivre sur notre page Facebook, Mare Nostrum, une émission de Radio Zinzinex, où sont annoncées les émissions, leur rediffusion, ainsi que quelques informations complémentaires sur le thème des émissions, et donc là, en particulier, sur l'anthropologie de la pilosité, où je vous mettrai les références du livre de Christian Bromberger. Nous allons terminer avec une chanson du poil encore, une chanson chantée par Marcel Bordas, une chanson donc qui est en fait une chanson du 19e, créée par Teresa. La femme à barbe.
Entrez dans mon établissement, vous ne trouverez pas dans toute la foire un phénomène plus surprenant que ce barbe qui fait ma gloire. Vous pouvez toucher, ne craignez rien, ça vous restera pas dans la main. Touchez, voyez que ce n'est pas des primes, et ça ne vous coûte que 10 centimes. Entrez, bonne d'enfants et soldats, sachez moyen de faire ployer ce bras. On pourrait plutôt ployer un arbre. C'est moi que je suis la femme à barbe, c'est moi que je suis la femme à barbe. Je trouve qu'au sujet de cet ornement, les hommes ont l'âme un peu trop fière. Je suis qu'une femme, mais cependant, moi j'en vaux 6, demandez à Pierre. Pierre, l'Hercule d'en face, un agneau, qui est jaloux de moi comme un taureau, aussitôt qu'un civil me lorgne. Oh, nom d'un chien, comme il vous cogne. Entrez, bonne d'enfants et soldats, sachez moyen de faire ployer ce bras. On pourrait plutôt ployer un arbre, C'est moi que je suis la femme à barbe. C'est moi que je suis la femme à barbe. Les sergents de la garnison me font parfois la galanterie m'offrir un canon sans façon. Mais je vais pas avec l'infanterie. On a de la barbe, mais de la pudeur. Je suis une femme et pas un sapeur. Je plains celui qui aurait l'impudence, pas respecter ma corpulence. En tribune d'enfants et soldats, les hommes grêlis ne paieront pas. C'est pas de la chair, mais c'est du marbre. C'est moi que je suis la femme à barbe. C'est moi que je suis la femme à barbe.